RFI, 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France sur RFI.
Bonsoir, bienvenue dans cette page d'information d'une demi-heure consacrée à l'actualité française.
Christophe Paget.
À la une, Nicolas Sarkozy. 7 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité et 300 000 euros d'amende ont été requis contre l'ex-président dans le procès des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Autre procès, celui de Gérard Depardieu pour agression sexuelle. Ce jeudi, le procureur a requis 18 mois de prison avec sursis et une obligation de soins pour l'acteur, entre autres. Dans le journal, on parlera aussi de la réunion à Paris des alliés européens de l'Ukraine. Tout le monde est d'accord pour s'opposer à une levée des sanctions imposées à la Russie. Et puis, dérapage budgétaire. Le déficit public français s'établit à 5,8% du PIB. La dette française dépasse désormais 3 300 milliards d'euros. C'est un record. Dans une dizaine de minutes, rendez-vous avec la mère de la danse contemporaine africaine, Germaine Akoni, marraine du festival Afro Capital à Paris. On s'intéressera aussi à la malnutrition des enfants, alors que se tenait ce jeudi, toujours à Paris, le sommet sur la malnutrition.
Radio France Internationale.
Nicolas Sarkozy dénonce l'outrance de la peine réclamée. Ce jeudi, dans le procès des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, le parquet financier a requis 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende contre l'ex-président, également 5 années d'inéligibilité. Le procureur a dénoncé dans son réquisitoire une quête effrénée de financement pour satisfaire une ambition politique dévorante. Je cite, c'est la réquisition la plus lourde, puisque 1 à 6 ans de prison ont été requis à l'encontre des autres prévenus, notamment 3 de ses anciens ministres, Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth. L'un des avocats de Nicolas Sarkozy, Jean-Michel Darroy, a dénoncé des peines disproportionnées au regard des éléments du dossier.
Le parquet a complètement changé son histoire, parce qu'au fur et à mesure du dossier, il est apparu que les deux fondements de son accusation, une note Mediapart et un soi-disant tête-à-tête entre Nicolas Sarkozy et Kadhafi n'existaient pas, et l'audience a démontré que jamais Sarkozy n'a demandé le moindre financement à Kadhafi. Alors, le parquet a demandé des peines très lourdes pour essayer de compenser la faiblesse de sa démonstration.
Et le parquet national financier, lui, est convaincu qu'un pacte de corruption a été noué entre le clan de Nicolas Sarkozy et le régime de Muammar Kadhafi. Des faits tangibles existent pour le prouver, d'après Vincent Brengart, avocat des parties civiles, qui salue l'exemplarité des peines requises.
Vous avez un ensemble d'espèces qui ont été retrouvées dans le cadre de la campagne électorale. Vous avez des documents qui sont des documents tout à fait détaillés. Et puis, vous avez aussi cette proximité avec des agents de corruption. Et ces agents de corruption, c'est Takieddine, c'est Djouri. Et il n'y a strictement aucune forme de raison logique à ce qu'il puisse exister de tels liens avec des responsables publics. Et je pense que non seulement c'était une réquisition qui était attendue en France, mais aussi à l'étranger, parce que ça montre qu'en France, nous avons une justice indépendante et qu'elle n'est pas fragile lorsque des personnes ont piétiné l'intérêt général.
Des propos accueillis par Baptiste Coulon, place désormais aux plaidoiries de la défense qui se tiendront toute la semaine prochaine. L'acteur Gérard Depardieu sera lui fixé sur son sort le 13 mai prochain. La décision du tribunal correctionnel a été mise en délibéré ce jeudi au terme de son procès pour agression sexuelle sur 2 femmes sur un plateau de tournage en 2021. Le procureur a requis 18 mois de prison avec sursis. 13 femmes l'accusent. 3 d'entre elles ont témoigné lors du procès. Durant ses plaidoiries, l'avocate de l'acteur a dénoncé des manœuvres évidentes pour faire tomber son client de 76 ans. Marie Cazadebet.
Durant près de 3 heures, Jérémy Assou s'était forcé de démontrer que toute cette affaire relevait du complot. Un mot qui était resté en suspens au cours de ces 4 jours d'audience. Le patron, selon l'avocat, c'est Mediapart, le journal d'investigation à l'origine des révélations d'agressions sexuelles. L'objectif, la mise à mort de Gérard Depardieu. L'avocat parle d'une organisation, d'une programmation des dépôts de plaintes, une complicité même du parquet qui étrangement fait le lien entre les dossiers. Des affaires prescrites, précise-t-il, viennent étoffer le dossier vide d'Amélie, l'une des plaignantes. Il poursuit sa démonstration, tous les témoins d'une scène d'agression reprennent les détails parus dans le journal, mais c'est difficile de mentir à plusieurs, remarque-t-il. Mais pourquoi la décoratrice aurait inventé une agression sexuelle? Pourquoi une assistante du réalisateur aurait menti pour la couvrir? La vengeance, avance Maître Assous. Car il le reconnaît, son client peut être odieux, et il l'a été, avec la décoratrice, avec l'assistante, mais aussi avec Sarah, la seconde plaignante. L'avocat se penche enfin vers le président du tribunal pour demander la relaxe pour son client et lui rappeler à quel point être accusé d'agression sexuelle peut détruire un homme. Marie Cazadebé, au tribunal judiciaire de Paris, RFI.
5 ans de prison ferme, c'est la peine dont a écopé ce jeudi l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, 80 ans, emprisonné en Algérie depuis novembre dernier. Le président français Emmanuel Macron a réagi en appelant au bon sens des autorités algériennes.
Je veux ici dire tout mon soutien à M. Sansal, à lui et à sa famille. Et je souhaite vivement que, après ce jugement, il puisse y avoir des décisions claires, je dirais humaines et humanitaires, par les plus hautes autorités algériennes pour pouvoir lui redonner sa liberté et lui permettre à la fois de redevenir un homme libre et de se soigner parce qu'il combat aussi la maladie. Et je sais pouvoir compter sur à la fois le bon sens et l'humanité des autorités algériennes pour prendre une telle décision. En tout cas, je l'espère fortement.
Emmanuel Macron, des propos recueillis par Julien Chavannes à la fin du sommet sur l'Ukraine. Car ce jeudi, les alliés européens de l'Ukraine étaient réunis à Paris. Tout le monde est d'accord pour s'opposer à une levée des sanctions imposées à la Russie. Selon le Premier ministre britannique Keir Starmer, il s'agirait même de les renforcer. Pour les garanties de sécurité, c'est plus compliqué. Le Royaume-Uni se dit prêt, avec la France, à déployer des troupes en Ukraine en tant que garantie de sécurité, justement. Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé qu'une mission franco-britannique devait se rendre dans les prochains jours dans le pays. Mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a regretté qu'il y ait toujours beaucoup de questions et peu de réponses sur l'éventuel déploiement d'un contingent européen. Car le président français l'a reconnu, la proposition franco-britannique de déployer des contingents en Ukraine ne fait pas l'unanimité. Et c'est dans ce contexte international difficile, on ne parle même pas des droits de douane imposés par Donald Trump, que les chiffres du déficit public français viennent d'être rendus publics. En 2024, il s'établit à 5,8% du PIB et la dette française dépasse désormais 3 300 milliards d'euros, c'est un record, Nathanaël Vitran.
Même si 5,8%, c'est un peu moins pire que ce que craignait le gouvernement qui tablait sur 6% de déficit public en 2024. Ce n'est pas pour autant une bonne nouvelle, a reconnu ce matin sur France Inter Éric Lombard, le ministre de l'économie, au moment où le contexte géopolitique mondial pousse l'Europe au réarmement.
La souveraineté nationale, elle va aussi avec une souveraineté financière. Or, tant que nous n'avons pas traité le problème du déficit de la dette, nous sommes en risque. Nous avons 3 300 milliards d'euros de dette. Nous allons verser à nos créanciers presque 70 milliards d'euros d'intérêts, c'est-à-dire plus que le budget de la défense. Donc nous devons réduire ce déficit.
Difficile dans ces conditions d'imaginer que la France sera effectivement capable de respecter ses engagements européens en revenant sous la barre des 3% en 2029 comme elle s'y est engagée. Le contraste est cruel avec le voisin espagnol qui vient lui d'annoncer y être parvenu dès 2024 avec un an d'avance. Alors que les nuages s'amoncellent sur l'économie mondiale, que le gouvernement français exclut toute augmentation des impôts, la seule option sur la table pour respecter ces contraintes imposées, c'est de tailler dans les dépenses sociales. Et là, on passe d'une équation économique à une équation politique pas forcément plus simple à résoudre.
Et pour remplir ses caisses, le gouvernement va, entre autres, réduire son soutien aux panneaux solaires, plus précisément ceux que l'on voit fleurir sur les maisons des particuliers. Pour que cela coûte moins cher à l'État, l'arrêté qui entre en vigueur demain recentre le dispositif sur l'autoconsommation, l'utilisation par les particuliers de l'électricité qu'ils produisent. Et pour cela, le tarif de revente du surplus est divisé par 3. Emmanuel Macron perd son plus proche collaborateur, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Après plusieurs rumeurs de départ, il a annoncé sa démission au président de la République. Alexis Kohler quittera le palais présidentiel en avril. Il travaillait avec Emmanuel Macron depuis 10 ans. Stéphane Duguay.
Emmanuel Macron perd son bras droit, son deuxième cerveau, comme certains le surnomment. Alexis Kohler quitte l'Élysée où il était un rouage essentiel chargé de traduire concrètement les engagements politiques du chef de l'État. Les deux hommes ont commencé à travailler ensemble à Bercy en 2014. Alexis Kohler était alors le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie, puis artisan de sa victoire en 2017. Un proche parmi les proches qui a résisté aux secousses des deux quinquennats et aux affaires judiciaires. Alexis Kohler est accusé de prise illégale d'intérêt dans l'affaire de l'armateur MSC, fondé et dirigé par les cousins de sa mère, soupçonné aussi de trafic d'influence dans le cadre de la fusion Veolia-Suez. Le désormais ex-secrétaire général était discret, il n'apparaissait à la télévision que pour annoncer les gouvernements des 6 premiers ministres d'Emmanuel Macron, plus rarement lors de commissions d'enquête comme au Sénat sur l'affaire Benalla. Récemment, il avait même refusé de se rendre à l'Assemblée pour répondre aux députés sur le dérapage des finances publiques. Alexis Kohler quitte l'Élysée pour le secteur privé où il devrait prendre un poste dans la banque.
Du sport maintenant, du sport et de l'énervement. En tennis de table, Alexis Lebrun ne jouera plus jusqu'à nouvel ordre. Dimanche, il s'est fait mal à la main après avoir perdu la finale des championnats de France dans un match épique contre son petit frère Félix. Et de rage après sa défaite, il a donné un coup de poing sur la table. Mathis Landais.
Une blessure évitable, c'est le moins qu'on puisse dire. Après 3 titres nationaux d'affilée, Alexis Lebrun n'a pas apprécié de céder sa couronne au Benjamin de la famille. Au bout d'une rencontre particulièrement disputée, où il a même manqué une balle de match, le Montpelliérain s'est fait rattraper par la frustration. Résultat, une blessure à la main droite. Le diagnostic n'est pour le moment pas connu, mais suffisamment contraignant pour lui faire manquer la prochaine Coupe du Monde, disputée à Macao en avril. Ce mercredi, sur son compte X, le pongiste de 21 ans est revenu sur cet événement un peu délicat.
Malheureusement, j'ai pas su gérer mes émotions et je regrette énormément, mais ça me servira de leçon, c'est sûr. Je vais essayer de tâcher d'apprendre à mieux gérer mes émotions pour les prochains matchs et j'espère que ça me servira pour revenir encore plus fort.
Alexis Lebrun n'est pas le premier Français à connaître une telle mésaventure. En tennis, Henri Lecomte s'était fracturé le poignet en 1988 après avoir donné un coup de poing dans une cloison suite à une large défaite contre Boris Becker. Plus récemment, Arthur Hinderknecht avait dû abandonner à Roland-Garros pour un coup de pied un peu trop appuyé sur un mur. Alexis Lebrun, lui, pense déjà à la suite. Il espère être rétabli et de retour pour les mondiaux prévus à Doha en mai prochain.
Mathis Landais, RFI, 23h11 à Paris.
24 heures en France, Christophe Paget.
Le festival Afrique Capitale, c'est jusqu'au 30 mars dans la capitale française, jusqu'à ce dimanche donc. Afrique Capitale s'intéresse chaque année à la culture dans les grandes villes africaines. Cette année, la marraine de cette 4e édition, qui met à l'honneur la ville de Dakar, c'est la danseuse et chorégraphe franco-sénégalaise Germaine Akoni. Elle a fondé l'École des Sables, une école de danse unique en son genre sur le continent africain. Germaine Akoni, considérée comme la mère de la danse contemporaine africaine, est interrogée par Isabelle Chenu.
Bonjour Germaine Akoni.
Bonjour.
Vous êtes une référence de la danse, vous venez ici à Afrique Capitale aussi pour donner une masterclass, vous avez donné votre nom à une technique de danse qui mêle la danse contemporaine occidentale et les danses africaines. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à cette jeunesse, à ces jeunes danseurs justement que vous rencontrez ?
La fierté d'être soi. Parce que ma technique, c'est l'élégance, c'est l'enracinement, c'est la fierté. C'est pas beaucoup de temps, mais en 3 heures, je crois que je peux leur insuffler cette générosité aussi du donner et du recevoir et d'échanger entre eux, d'être solidaires. On a besoin de cette solidarité dans ce monde actuel. Et vous savez, le monde a besoin de beauté et l'art en est l'instrument. Ma danse, ma technique, c'est le reflet de la nature. On va avoir le respect de la nature. Leur apprendre ce que c'est que le nénuphar. Le nénuphar, un mouvement que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que la tête qui bouge représente la fleur. Les bras, ce sont les feuilles qui sont étalées sur l'eau. Le corps, ce sont les racines. Et je vous assure, quand on le fait consciencieusement, c'est aussi une méditation. On se sent venir dans l'eau.
Alors il y a 5 danseurs issus des diasporas africaines qui font une résidence de formation et ensuite direction l'école des sables, cette école que vous avez inaugurée en 2004, qui est unique en son genre, qui est au sud de Dakar. Qu'est-ce qui va se passer lors de ces restitutions ?
Quand il y a des restitutions, mais c'est extraordinaire ce qui se passe à Toubab Jalao, à 50 km de Dakar. Ces jeunes, quand ils vont venir, ils vont être en contact avec les gens du village pour aussi échanger avec eux. Et nous sommes une fenêtre ouverte sur le monde. Cet échange aussi, ça leur fait grandir et ça leur fait voir à ces jeunes qui vont venir aussi un autre bout du monde. Le partage est essentiel dans ce monde actuel.
Quand vous avez démarré à la fin des années 60, vous êtes venu vous former en France, notamment, vous avez vécu en France. Il n'y avait pas de danseuse noire dans la danse classique.
En tout cas, j'étais la seule noire dans cette école. J'ai été très bien reçue par Marguerite Lamothe. Mais justement, cette confrontation avec la danse classique m'a permis de voir que mon corps était différent. La technique Aconi, et pour moi, c'est le reflet de la nature puisque je fais la grenouille, le baobab, le capoquier. Vous savez, le capoquier qui est le fromager, c'est le symbole de ma technique. Le fromager est énorme, avec des racines qui s'envolent vers le ciel. Ces plantes, des influences d'ailleurs, mais le reste est soi.
Dans le cadre d'Afrique Capitale, il va y avoir aussi un documentaire qui va être diffusé, consacré à votre parcours. Est-ce qu'il raconte aussi d'où vous vient cette passion de la danse ?
Ma grand-mère était une prêtresse yoruba, danseuse. Et quand je suis née, ils ont dit « Yatunde, la mère est revenue ». Et je pense que c'est elle qui m'a beaucoup inspirée dans le travail, dans ma créativité.
Vous, Germaine Aconi, vous continuez à 80 ans à toujours danser.
Ben oui, j'ai un don de Dieu. Et c'est une chance que je continue à cultiver, à danser, à transmettre.
Merci beaucoup, Germaine Aconi.
Germaine Aconi au micro d'Isabelle Chenu. Afrique Capitale, c'est jusqu'à ce vendredi à Paris. Et de la danse, on passe à la musique. La maison Henri Selmer, fabricant français historique d'instruments à vent, fête ses 140 ans. C'est l'occasion de revenir sur le marché des instruments en France. Alors, 1 million d'instruments neufs est vendu chaque année dans l'Hexagone. Ça paraît une bonne nouvelle. Ça n'en est pas forcément une pour les fabricants français, car 98% de ces instruments proviennent en fait d'Asie. Et pour survivre, les marques françaises misent sur le haut de gamme. Reportage Pénélope Lemoguen.
Oh, je vois que celui-ci, par exemple, il marche bien, mais on entend qu'il y a des petits bruits parasites qui me gênent.
Vous ne ferez peut-être pas la différence, mais pour ce musicien professionnel, tous les instruments ne se valent pas. Nous sommes à Mantes-la-Ville, à l'ouest de Paris, dans les ateliers Henri Selmer, fabricant emblématique d'instruments à vent.
La richesse du son, c'est cette résonance qu'on sent, cette chaleur qu'on sent, ce côté même presque boisé qu'on a à l'intérieur du son de la clarinette.
Adrien Bess, responsable de marché chez Henri Selmer. Selon lui, les instruments importés sont très souvent d'une qualité acoustique bien inférieure.
La différence, elle s'entend à l'oreille. On peut vraiment, même en étant complètement novice, écouter deux instruments et sentir cette différence de richesse de son dès la première note. Généralement, un instrument de mauvaise facture, il va avoir un spectre sonore extrêmement pauvre.
Qualité médiocre, mais prix agressif. Les instruments asiatiques ciblent particulièrement les débutants. Thierry Oriez, le président de l'entreprise.
Dans les 20-30 dernières années, vous avez eu la concurrence chinoise qui s'est positionnée sur des instruments très très accessibles. La majeure partie de la concurrence asiatique se situe plutôt sur les instruments intermédiaires, les instruments d'études, où là elle est effectivement très âpre. Sur les instruments d'études, j'aurais tendance à dire que tous les instruments sont des instruments d'importation entièrement réalisés en Asie.
Cette situation a conduit à un effondrement du nombre de fabricants en France. Ils ne sont plus qu'une vingtaine aujourd'hui, contre 150 en 1960. Ceux qui restent tablent sur le haut de gamme. Stéphane Gentil, chef de produit clarinette.
Le savoir-faire de la fabrication, ça c'est quelque chose qui reste vraiment spécifique. Donc on a des savoir-faire d'acousticiens, de techniciens qui rentrent dans la conception et ensuite la fabrication.
Une réputation d'excellence qui leur permet d'exporter partout dans le monde. Mais le contexte géopolitique depuis le retour de Donald Trump n'est pas pour les rassurer.
On est quand même sur une période un peu surprenante, avec des incertitudes sur les droits de douane, des incertitudes sur l'activité économique en règle générale. Et tout ça n'est pas forcément favorable à l'activité quelle qu'elle soit, et en particulier à l'activité culturelle.
Solution défendue par les professionnels du secteur, que les pouvoirs publics incitent les écoles et conservatoires à acheter des instruments fabriqués en France.
Un reportage de Pénélope Lemoguen, RFI, 2h19 à Saint-Denis de la Réunion.
Le journal de l'Outre-mer.
Et à la une de ce journal de l'Outre-mer, l'épidémie de chikungunya à la Réunion qui a peut-être été sous-estimée. Emma Jaconelli, bonsoir.
Bonsoir. Plus de 13 000 cas de chikungunya ont été recensés depuis le mois d'août à La Réunion. Mais on en compte peut-être en réalité 4 fois plus selon les autorités de santé. Tous les cas malades ne s'étant pas fait dépister. Le point sur la situation avec Ange Rakotandravol.
Les examens biologiques devraient désormais se faire stratégiquement pour éviter la saturation des laboratoires. Professeur Xavier De Paris, directeur de la veille et sécurité sanitaire à l'ARS.
D'abord pour les gens qui sont à risque, confirmer le diagnostic de chikungunya. Si on a une personne pour laquelle on a un doute, on va conseiller de faire une prise de sang si elle vient d'un quartier ou d'une famille où il n'y a pas encore eu de cas. Pourquoi ? Parce que la lutte antivectorielle, on a besoin d'avoir la cartographie des nouveaux cas pour avoir les zones dans lesquelles on doit intervenir.
L'épidémie actuelle est loin d'être comparable à celle de 2005.
On devrait approcher le pic courant avril, mais a priori on n'aura pas un pic à 50 000 cas en une semaine comme on l'avait observé en 2005-2006. Et puis les gens sont malades pendant 3 ou 4 jours avec des grosses douleurs articulaires, mais ça se résout assez rapidement.
Néanmoins, depuis le début de cette épidémie, 82 personnes ont été hospitalisées, 15 formes de cas graves signalées et 2 décès ont été enregistrés.
À Mayotte, 3 cas de chikungunya ont été importés de La Réunion et un cas autochtone a été confirmé par l'ARS. Le niveau 2 du dispositif ORSEC pour surveiller l'avancée de l'épidémie a été déclenché. La vie chère, toujours un sujet aux Antilles malgré les récentes annonces du ministre des Outre-mer. Les petites, moyennes et grandes surfaces sont dans l'obligation d'appliquer une TVA à taux zéro pour 69 familles de produits depuis le 1er mars. Mais les clients guadeloupéens ont-ils perçu cette baisse ? Reportage Jessie Blanquet.
On achète toujours les mêmes choses et je vois le prix augmenter, alors je ne sais pas.
Il n'y a pas de changement. Comme j'ai vu la salade, c'est quand même à 3 euros, 4 euros. Quoi. Pas vu d'amélioration.
À la sortie d'un des supermarchés de Bemao, les consommateurs doutent toujours d'une réelle baisse des tarifs dans la grande distribution. Et pour cause, dans les rayons, les articles concernés par l'exonération de la TVA ne sont pas identifiables. Entre le nouveau prix, l'ancien prix et son taux de réduction, Céline n'y voit que du feu.
Ce n'est pas effectif, je dirais. Il y a des prix qui ne changent pas, mais il y en a certains. Il faut vraiment chercher, quoi. Il faut être un peu plus précis, un peu plus de détails.
Et pourtant, l'arrêté du 27 février 2025 impose l'exonération de TVA sur les importations et les livraisons de 69 familles de produits alimentaires, avec pour conséquence une baisse des prix de vente de 2,10% sur les produits concernés. Contrairement à la Martinique, chez nous, seule la loi sur l'exonération de la TVA s'applique et non le protocole d'accord contre la vie chère. Résultat, pas de contrôle ciblé, comme nous l'explique Patrick Plantard, président de l'OPMR, Observatoire des prix, des marges et des revenus.
En Guadeloupe, il n'existe pas de protocole. On bénéficie de l'accord de la Martinique pour la TVA, mais pas pour l'octroi de mer. Et chez nous, ces informations ne sont pas transmises à la DETS Guadeloupe pour faire cette analyse.
Reste maintenant à savoir si les acteurs de la grande distribution joueront le jeu en Guadeloupe et si les contrôles seront opérés par la répression des fraudes.
Une boulangerie a rouvert ses portes à Miquelon. Depuis plusieurs mois, les habitants du village devaient consommer du pain congelé ou cuit par d'autres commerçants, ou bien attendre les livraisons 2 fois par semaine de Saint-Pierre. Les 600 Miquelonais peuvent donc désormais déguster viennoiserie et pain frais. Pour leur plus grand bonheur, Hakim Saïd a suivi cette ouverture.
Là, je mets en place avant d'ouvrir. Ça doit ouvrir dans 7 minutes.
6h30. Enfin, la boulangerie de Miquelon ouvre ses portes. La journée a commencé très tôt pour de nombreuses personnes. Cette longue file d'attente confirme le besoin de déguster du bon pain frais.
Le matin, tout le monde va se ruer, mais venir chercher son pain et ça, la vie démarre plus bonheur, quoi.
J'ai la chance d'aller chercher un boulanger, sentir l'odeur du pain à nouveau dans le village. Et puis bon, c'est toujours agréable, quoi. Puis j'espère que ça va continuer longtemps encore.
Une baguette congelée n'égale pas un pain fraîchement sorti du fourneau, parole d'un miquelonnier.
C'était pas agréable, disons, tous les matins de pouvoir prendre une baguette, le mettre à dégeler et puis la mettre au four.
Pour en arriver là, quelqu'un a dû se lever très tôt, Rémi, le nouveau boulanger de Miquelon.
La population a répondu au rendez-vous. Dès 6h30, tout le monde était là et ça s'est très bien vendu, tout est parti. Donc là, je vais continuer à produire pour pouvoir réouvrir demain matin à 6h30 de nouveau avec des viennoiseries et du pain frais.
Le nouveau boulanger de Miquelon devra redoubler d'efforts au moins une bonne semaine, ajuster ses stocks, augmenter ses créations pour répondre pleinement aux exigences de sa nouvelle clientèle.
Un reportage de Saint-Pierre-et-Miquelon, La Première. Bonne soirée.
Merci Emma Jaconelli, bonne soirée. En 2015, les dirigeants du monde ont fait une promesse à l'humanité, éliminer la faim d'ici 2030. Hélas, nous sommes loin du compte. C'est ce qu'a rappelé ce jeudi Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU ouvrait ce jeudi, aujourd'hui, par vidéo interposée, le sommet sur la malnutrition à Paris. Il est organisé à tour de rôle par les pays hôtes des Jeux Olympiques. Entre la faim, la sous-nutrition, mais aussi le surpoids et les maladies liées à une alimentation transformée, plus de 2,8 milliards de personnes souffrent de malnutrition dans le monde, au sud comme au nord.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Et le Conseil Santé de ce jeudi s'intéresse justement à la malnutrition, plus précisément à la malnutrition infantile. Chantal Leroux en parle avec son invité.
Docteur Rodrigue Alitanou, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes médecin et directeur des opérations de l'ONG Alima. Vous êtes basé à Dakar. À quel signe reconnaît-on qu'un enfant souffre de malnutrition ?
Nous avons plusieurs manières de savoir qu'un enfant souffre de malnutrition. Déjà au niveau communautaire, on utilise ce que nous appelons le périmètre brachial pour voir si l'enfant a une diminution du périmètre brachial. Nous donnons des codes couleurs aux parents, aux communautés. Et dès que l'enfant est dans un code couleur rouge ou jaune, automatiquement, il est considéré comme un enfant souffrant de malnutrition. Maintenant, sur les centres de santé, on utilise plusieurs critères qui allient le poids, donc la prise du poids de l'enfant, la taille, le périmètre brachial, qui nous permet de calculer des scores et de savoir si cet enfant est malnutri ou pas.
Et quel est le protocole de prise en charge de ces enfants malnutris ?
Alors, le protocole est à divers niveaux. Donc, nous avons les enfants qui souffrent de malnutrition aiguë, sévère, et ceux qui souffrent de malnutrition aiguë, modérée. Nous avons également les enfants qui souffrent de malnutrition chronique. Donc, pour ceux qui souffrent de malnutrition aiguë, il y a un protocole standard, un protocole générique, qui nous permet, en tout cas, de les prendre en charge, soit en ambulatoire, avec les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Pour les modérés, on parle d'aliments supplémentaires prêt à l'emploi. Et maintenant, pour les enfants qui ont des maladies adjacentes à leur état de nutrition, ils sont transférés à l'hôpital pour être soignés en milieu hospitalier avec les aliments thérapeutiques, tels que les laits thérapeutiques qu'on appelle F75, mais aussi en fonction de leur évolution avec les ATPE.
ATPE, aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Merci beaucoup, docteur Alitanou. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, on parle de self-défense psychologique face à des comportements agressifs.
Et c'est à 1h10 temps universel. Merci, Chantal Leroux. 24 ans en France touche à sa fin. Merci à Valentin Vaner à la réalisation et à Charlotte de Rouen à la rédaction chef. Dans quelques instants, Afrique Soir. En attendant, on part à la Bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones ne cède que 155 points et revient à 42 300. L'indice du Nasdaq recule de 95 points pour clôturer à 17 804. Les marchés américains d'action limitent donc les dégâts, mais les valeurs de l'automobile sont durement malmenées aujourd'hui, en réaction bien sûr aux droits de douane de 25% annoncés par Donald Trump hier après la clôture. General Motors aujourd'hui perd près de 7%, Ford chute de près de 4%, Stellantis, maison mère de Chrysler, cède moins de 2%, l'équipementier automobile canadien Magna International plonge de 7% et Toyota, par exemple, rend près de 3%. Les coûts de production de l'ensemble de la filière automobile vont augmenter sans garantie que davantage d'emplois soient créés aux États-Unis. Le rendement du T-bond à 10 ans remonte à 4,37 car les droits de douane tout juste annoncés et ceux qui le seront la semaine prochaine vont au minimum dans un premier temps faire grimper l'indice des prix aux États-Unis. Le seul grand gagnant aujourd'hui, une fois de plus, est l'or. L'inquiétude suscitée par la perspective d'une guerre commerciale mondiale fait gagner plus d'1% à l'once de métal fin qui termine à plus de 3 064 $. La banque Goldman Sachs anticipe la poursuite de la hausse de l'or jusqu'à 3 300 $ l'once. Le baril de pétrole américain s'apprécie à peine et finit à près de 70 $. L'euro remonte à 1,0795 $. Aidé par un regain d'intérêt pour des valeurs défensives aux dividendes élevés, notamment les opérateurs de télécommunications, Le Dow Jones ne perd que 0,4%, le Nasdaq chute de 0,5%.
Merci Pierre-Yves Dugas, et vous le savez, vous pouvez réécouter 24 heures en France comme tous nos autres journaux sur www.rfi.fr, notre site internet.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
La France perd de l'influence en Algérie et cela profite à l'Italie. Le gouvernement de Giorgia Meloni a un plan pour l'Afrique du Nord. Migration, hydrocarbures, commerce, le courant passe bien d'Alger à Tunis ou à Tripoli. Prochaine étape pour Rome, la Mauritanie.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.